pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour vous faire découvrir une nouvelle auteure. Elle nous propose un livre entre vie vraie, entre fiction, réalité, souvenir, un mélange de vie, de remise en question, en tout cas pour ma part. Je vous présente Alexandrine Loubet. Bonjour.
Bonjour.
Alexandrine, vous nous avez proposé une musique choisie par vous-même donc pour cette introduction. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Elle représente beaucoup. Quand vous m'avez demandé quelle musique, ça a été une évidence de passer cette musique de Raphaël Brouard. C'est un être incroyable. Pour moi, un très grand musicien parce qu'il touche au cœur. Il a quelque chose de pur, de vrai, de sincère. Une magnifique technique et qui est vraiment au service de son art, de sa sensibilité. Je suis très touchée par cet être. Et puis, on avait, il y a quelque temps, un duo de poésie-musique ensemble. Je disais mes textes, il accompagnait en musique, on chantait aussi un peu ensemble. Et puis, ça s'est arrêté parce qu'il est retourné vivre sur Paris. Je suis très contente que mon interview soit accompagnée par sa musique. Et puis, le faire découvrir aussi, parce que pour moi, c'est vraiment un artiste immense.
Comment vous en êtes venue vous-même à l'écriture ?
Ah, j'adore cette question. Eh bien, vraiment par hasard, mais par un hasard qui n'en est absolument pas un. C'est-à-dire que donc, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Hein, quand j'écris ce livre-là, je suis encore en train de digérer ces 12 ans de professeur des écoles. Et j'avais envie de d'œuvrer. Moi, travailler, ça, c'est pas un mot qui me parle. Mais par contre, je sais que j'ai des ressources en moi, que j'ai des qualités, qu'il y a une saveur particulière chez moi et qu'elle a sa place dans ce monde. Et donc, j'avais envie de savoir comment je peux la mettre au mieux au service. J'ai regardé vers le ciel, j'ai dit « montre-moi ». Et je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'avais quitté l'éducation nationale pour être clown, en fait. Voilà, donc je me suis formée, j'ai fait des formations très sérieuses en clown. J'ai monté un premier petit spectacle, un solo, et puis j'ai senti que non, en fait, c'était pas ça. Et l'écriture, s'il y a eu un ensemble de synchronicités, vraiment, ça s'est présenté à moi, ça a été une évidence. J'en parle un peu dans le livre avec oui. le décès de ma grand-tante, là où j'ai dit un texte lors de la sépulture pour rendre hommage et où j'ai eu vraiment énormément de retours très, très positifs. J'écrivais déjà de la poésie que je disais au coin de la rue ou à quelqu'un à qui j'achète des carottes au marché. J'ai écrit une poésie ce matin, je peux vous la dire. Dès que j'ai commencé à écrire, moi, de toute façon, quand je crée, je sens que c'est pour offrir au monde, c'est pas pour rester dans des tiroirs. Il y avait déjà la poésie un peu sur scène. J'ai fait quelques scènes slam aussi. Jamais j'aurais imaginé écrire un roman, enfin une autofiction. Mais maintenant, j'ai écrit déjà un roman aussi. Je suis sur mon troisième. Ça a été une évidence et il m'a vraiment été donné la force pour aller jusqu'au bout. Parce qu'autant écrire, c'est une chose, mais après, chercher un éditeur. Quand on habite un petit hameau au fin fond de la montagne, qu'on ne connaît personne dans le milieu, qu'on ne sait pas par où s'y prendre, waouh, c'est l'Everest, quoi. Mais il y avait vraiment quelque chose qui poussait derrière et un culot incroyable, en fait, vraiment. La dernière fois, quand donc, je n'ai pas reçu le prix de la ville, littéraire de la ville de Saint-Lys, où mon roman avait été sélectionné, il y a une collègue qui m'a dit, mais de toute façon, le chemin d'auteur, c'est un chemin qui apprend l'humilité. Vraiment, en moi, il y a eu quelque chose qui a dit, mais moi, je ne suis pas humble. Si j'étais humble, je ne serais pas là. Si j'étais humble, je n'aurais pas l'audace incroyable qu'il faut pour porter sa voix comme ça, de cette façon-là. Parce que peut-être que quand on grandit dans un certain milieu, qu'on est à Paris, qu'on a des connaissances, etc., peut-être que c'est plus simple de publier. Mais quand on est au fin fond de l'Ariège, ça ne l'est pas. Et vraiment, ce qui me porte, alors d'abord, ça a été ce feu. Et ensuite, qui a été confirmé aussi par ces lecteurs et lectrices qui m'ont... J'ai eu vraiment des retours très touchants. Là, sur Babelio, j'ai eu beaucoup de retours de gens que je ne connais absolument pas et qui ont écrit des choses mais magnifiques et qui viennent me conforter, me dire oui, ça a un sens. Je ne fais pas ça pour nourrir mon ego au sens de me flatter parce que peu importe, en fait, écrire un livre ou carreler un sol... dans tous les cas, c'est de l'art, il faut un savoir-faire, il faut faire ça avec le cœur. Donc moi, ce n'est pas au-dessus de quoi que ce soit d'autre, mais il y a quelque chose qui pousse et je sens que c'est par là. Combien de temps, j'en sais rien, en tout cas, maintenant, c'est évident. Et j'ai écrit mon deuxième, je suis sur l'écriture du troisième et je marche dans cette direction.
Mmh. Comment vous avez vécu votre enfance dans cette Ariège profonde?
Mon enfance dans cette Ariège profonde, bah oui et non, parce qu'en fait, comme j'explique dans le livre, j'étais que les week-ends.
Et oui.
Mais bon, en même temps, la semaine, quand on est enfant, hein, on est déjà quand même suffisamment occupé avec l'école et tout. Donc finalement, effectivement, les week-ends et les vacances, j'étais en Ariège. Mon livre est romancé, hein,
parce que
ça fait un peu Amélie Poulain, comme c'est raconté. On se dit, oh là là, on imagine la petite blondinette. Moi, j'avais vraiment une tête d'enfant... L'enfant parfaite, quoi, un blonde aux yeux bleus, comme ça. On la voit sautiller dans sa robe à fleurs, dans ce petit village de montagne, avec cette chaîne-là immense, magnifique, des Pyrénées, le Mont-Valier. Bon, la réalité, c'était qu'il ne se passait pas grand-chose. Je m'ennuyais beaucoup. Mais j'étais quand même nourrie par cette nature. On n'allait pas se balader avec ma famille, on n'allait pas marcher, c'était pas du tout ça. Donc on était beaucoup à la maison, au village, chez les cousins, cousines de mon père. C'était, je sais pas, quelque chose de simple, mais qui m'a touchée profondément.
Mmh. D'accord. Vous avez quitté le confort, comme on dit, le salaire d'un travail rémunéré, pour une vie bien plus simple, tout simplement. Mmh. C'était un ras-le-bol de ce confort que vous aviez, ou vous aviez fait le tour, tout simplement?
Moi, j'ai quand même été élevée de façon très... Mon père, il est arrivé, il est né fin 45, donc sorti de guerre. Donc je pense qu'il a grandi avec ses privations-là. Enfin, il y a un truc qui est un peu là dans l'ADN chez mes parents. Donc nous, on ne partait pas en vacances. Les vacances, c'était dans la vieille grange. Maintenant, Cominac, les gens qui connaissent l'Ariège, ils sont là « Oh, Cominac !» C'est un peu côté, entre guillemets. Mais bon, à l'époque, c'était juste le fin fond de la montagne, en fait.
Oui.
Après, on n'est jamais parti en vacances, on faisait pas, on manquait pas, mais c'était quand même chiche un petit peu.
Oui.
Mais moi, ça m'a pas... Il y a d'autres personnes qui, avec une éducation pareille, seraient parties dans un consumérisme débridé. Moi, c'est pas mon cas, en fait. J'ai gardé ça, donc même quand j'étais enseignante, je me souviens, j'ai commencé à 1 300 euros, rendez-vous compte, vraiment, c'est... C'est ridicule. Mais moi, 1 300 euros, je mettais de côté. Hein. Et beaucoup. parce que je suis pas une grosse consommatrice. En fait, ma joie, elle est pas dans la dépense. Après, oui, avec de l'argent, ça peut simplifier des choses, ça peut offrir. Enfin, oui, bien sûr, mais mon bonheur, fondamentalement, c'est très clair depuis toujours qu'il est pas là-dedans.
Le livre dont nous allons parler est paru en juillet 2025 aux éditions Kern. Il s'appelle « Le murmure des ancêtres ». Il n'a que 150 pages, mais alors le contenu, il en fait au moins 1000.
Oh, wow,
aussi, ce n'est pas 1500. Ah, il ne faut pas économiser. Il vous a fallu du temps pour écrire?
Oui. Autant mon deuxième, ça a été plutôt rapide. Autant celui-là... Je ne saurais pas dire, en fait, oui. Parce que j'ai commencé à écrire sur un déclic, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire. Et puis après, j'attendais que ça vienne à moi. J'attendais de sentir, tiens, ça, c'est juste de le mettre dedans. Parce que mon idée, ce n'était pas de tout raconter.
Oui.
C'est de raconter ce qui était juste, en fait. Oui. Donc, je ne voulais pas prendre des anecdotes croustillantes parce que c'est croustillant, non. Et j'ai aussi vraiment énormément fait attention, en fait, de ne pas blesser les gens, d'avoir un regard juste, en fait, un regard aimant. Pour moi, c'est très important.
Est-ce que ce livre a été thérapeutique pour vous, justement, dans ces moments difficiles, justement, d'avoir laissé un travail?
Non, non. D'accord. Le travail thérapeutique, je l'ai fait autrement, et oui. Clairement, je l'ai fait. Parce
d'accord.
Que, partie, alors, dans le livre, je dis burn-out, mais je pense qu'il y a un goût comme ça, quand même.
Hein, oui.
Parce que pendant 2 ans au moins, quand j'entendais parler des enfants ou quoi, je me sentais agressée par le bruit. Enfin, vraiment, j'avais une hypersensibilité. Enfin, quand j'ai arrêté, c'était, je pouvais pas faire un mois de plus.
C'était d'accord.
Stop, stop, stop.
Votre ouvrage, moi, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il est bien ancré à la terre. Ça, c'est important, je pense, pour ce style d'écriture. Et là, magie, vous capturez le lecteur avec le cri du pain dur qui cède sous la lame de l'opinel. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une phrase, mais on veut savoir pourquoi ce pain, il crie là-dessous, quoi. On enchaîne et on veut toujours aller plus loin. Vous l'aviez dit, vous êtes poète pour avoir cette vision du simple pain coupé.
Oui, c'est la première phrase de mon livre. Le cri du pain dur qui cède sous la lame de l'opinel me fait sensiblement le même effet qu'une craie sur un tableau noir. Là aussi encore, je ne suis pas... Alors maintenant, arrivé à mon troisième livre, je sens que j'ai envie d'aller vers un petit peu de technique aussi. Parce
oui.
Que bah, j'ai pu le voir, parce que moi j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup d'autres activités artistiques. Notamment en danse, je vois que c'est quand même vraiment bien d'acquérir de la technique pour après être capable de s'en affranchir et ou de l'utiliser et ou de la sublimer. Mais c'est important d'en avoir. Mais là, vraiment, ça s'est fait comme c'est venu. Et quand j'ai écrit ce premier chapitre... J'ai contacté un ami qui, parce qu'au fin fond de ma SAT, il y a quand même un homme qui a déjà écrit des livres et qui connaît un peu et que j'ai eu la joie de rencontrer. Et je lui ai dit, écoute, c'est quand même bizarre, le premier chapitre qui m'est venu d'écrire, c'est « Je décris mon père qui mange sa soupette au petit déjeuner ». Enfin, je veux dire, pour moi, je me dis, mais oh là là, au secours, quoi. C'est pas...
Et pourtant, c'est vrai, c'était la vie d'avant.
Oui, voilà, mais je me disais, c'est pas très appétissant, justement. Enfin, moi,
ben
je trouve
oui.
ça dégoûtant
ben
comme
oui.
petit déjeuner, clairement.
Eh bien oui, c'est vrai. Oui, mais il faut se remettre dans l'époque. Hein.
Oui, 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 mais bon, c'est une époque que mon père perpétue, enfin en tout cas qui est encore vivante dans sa façon de vivre maintenant. Mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est super. Et c'est super parce que, hop, tu fais plonger les gens tout de suite dedans. Et en fait, c'est ça.
Et oui.
En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et je crois que la force de ce livre, c'est qu'il y a un côté très sincère et immersif.
Oui.
Et aussi, comment dire, parce que dans ce chapitre, donc je décris mon père, donc on voit la fille qui regarde son père. Je raconte comment c'était cette même scène quand j'étais enfant et que mon père avait des longues moustaches et donc où à chaque gorgée, le liquide assemblait ses poils d'une façon différente. Donc il y avait beaucoup de contemplation là aussi. Et après, je raconte comment ces petits moments-là, en fait, ils sont précieux. Il y a quelque chose de réflexif là-dessus. Et il y a beaucoup ça dans mon livre, en fait, de vivre ces moments et de prendre du recul par rapport à ça et de voir le beau là-dedans. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai un chemin spirituel intense et qui
oui.
prend beaucoup de place dans ma vie et qui fait que, du coup, j'ai du recul sur les choses et que je sais apprécier les toutes petites choses de
rien. Tout à fait, tout à fait. Dans une histoire qui se passe dans l'Ariège, votre pays, finalement, votre village aussi, quelque part. Vous parlez de cet Ariège terre-courage, en fait. Mmh. Et ça, c'est une force pour vous ?
Je ne sais pas si c'est une force. En tout cas, c'est un poids que j'ai accepté de lâcher. C'est un héritage dont je célèbre la beauté, mais dont je me détache aussi. Dans le livre, il y a une phrase qui est « J'aime l'odeur du fumier, mais j'aime aussi celle des roses.
Oui.
Et pour moi, ça dit ça, en fait. C'est-à-dire que je vois vraiment le beau dans ce côté...
Minge balente, sois voyante, allez.
Et ce que ça implique après de ne pas s'écouter, d'avancer malgré tout, quelque chose de faire de soi-même une bête de somme, en fait, oui. Que je trouve assez violent, mais à remettre en perspective avec un milieu où, à l'époque, il n'y avait pas le choix, en fait.
Oui.
Mais maintenant, on a la chance d'avoir le choix. Mm-hmm. Et donc, moi, je ne fais pas ce choix-là, mais j'ai envie quand même de célébrer ça, parce qu'il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose de beau et de vrai, et qui, je trouve, profondément touchant, en fait, dans cet univers-là.
Oui. Ne plus avoir le temps de ne pas avoir le temps. Alors ça aussi, c'est une phrase qui m'a paru magique quelque part, parce que c'est vrai, c'est ça en fait. Quand on fait autre chose, on n'a plus le temps d'avoir le temps, quoi. On n'a plus le temps de faire, on n'a plus le temps de rien.
Oui, la phrase c'est « je n'ai plus le temps de ne pas avoir le temps ».
Voilà,
c'est fait exprès pour faire un peu bugger le mental.
Oui.
Et parce que j'ai plus le temps de courir après le temps, en fait.
Et il fallait l'écrire, ça.
Stop. Oui, bah, ça, c'est inspiré. Hein. Je veux dire, moi, je ne suis pas assez intelligente pour inventer un truc pareil. Hein.
Ah non, il ne faut pas dire ça. Parce que quand on lit le livre...
Oui, mais vraiment, parce que le livre, je me suis laissée traverser pour écrire ce livre, vraiment. Et tout ce que je fais, pour moi, pourquoi il y a un goût savoureux ? Parce que ce n'est pas mental, parce que ce n'est pas moi qui fais et qui veux. Voilà.
Si, c'est parce qu'il est vrai.
Mmh, oui, oui.
C'est ce qu'on disait avec le couteau et le pain. Chaque bruit, chaque odeur, c'est lié à quelque chose, quelque part.
Oui, oui, bien sûr, mais ce n'est pas calculé. Je ne me suis pas dit, tiens, tu vas voir. C'est vraiment, ça vient du cœur.
C'est ça.
Hop, c'est ça qui appelle. J'y vais, je suis et je sens la justesse. Alors, voilà, je suis la justesse, en fait.
Même si les travaux ne sont pas aussi durs et aussi pénibles que du temps de vos ancêtres et de vos parents, peut-être, est-ce qu'il était important pour vous, justement, d'apprendre un petit peu ce savoir-faire ? Parce que vous parlez de rentrer le bois.
Bah, c'est un minimum, en fait. Il n'y a pas le choix. Je ne sais pas que je me suis dit, allez, je vais donc apprendre ce savoir-faire. Non, c'est juste qu'en fait, j'ai envie d'avoir chaud. Il
n'y
a pas le choix.
Oui, mais en même temps, il faut encore finir, quoi.
Non, mais j'aime ça, en fait. Vraiment, j'aime ça. Et pour moi, ça participe d'un équilibre aussi. Moi, je pense que pourquoi on a autant de personnes sous antidépresseurs, de gens qui vont mal aussi, c'est en partie, pas que, mais parce qu'on a coupé le lien à la terre, en fait. Et quand on rentre le bois, quand toutes les petites tâches prennent du temps, en fait, on revient à quelque chose d'essentiel et qui est profondément nourrissant. Après, on n'a plus besoin d'aller se remplir avec plein d'autres choses.
C'est vrai.
On est déjà plein.
Tout à fait. J'aimerais, pour nos auditeurs, que vous disiez ce que veut dire, moi bien sûr je le sais parce que, comme vous, je l'ai entendu, être parfaite aux yeux du village. Ça, c'est quelque chose qui m'a parlé, vraiment.
Ouais. Être parfaite, c'est être vaillante. Oui, oui, moi je suis
Mais
arrivée...
vaillante, ça ne veut pas dire que d'être vaillante. Ça veut dire aussi travailler. Ça veut dire ne pas lâcher.
Ouais.
Être téméraire.
Ouais, c'est intéressant, merci de le relever comme ça, parce que finalement, moi, à ma façon, je suis vaillante. Mais mon véhicule ne bouge pas tous les matins pour aller au travail, donc pour certains, c'est pas du tout. Oui, effectivement, quand je suis arrivée dans ce village, j'ai été téléportée. Enfin, vraiment, j'ai été, hop, voilà, tiens, toi, tu vas là. Et je l'entendais, ce murmure des ancêtres. Je sentais que, quand j'ai eu l'élan de quitter l'Haute-Pyrénées pour m'installer en Ariège, je sentais que j'allais devoir passer par cette case-là. Et comme je trouvais pas de logement, que je voulais pas être en ville, mon père m'a dit, viens donc là. Et je suis venue et je sentais, en fait, je les connais, les gens du village, je voyais ce regard de « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?»« Mais elle travaille pas, mais elle a démissionné. Oh, »« mais non, parce que enfin voilà, c'est impensable, en fait, dans ces environnements-là. » Et je leur jette pas la pierre, mais du tout. Mais moi, ça a été un grand cadeau, en fait, de m'accepter pleinement comme je suis et d'oser vraiment aller au plus profond de ce qui est juste pour moi et de pouvoir dire aux autres. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai dit à mon père, je lui dis « je suis désolée de ne pas être la fille que tu aurais voulu avoir, mais je suis moi et ça ne va pas changer, en fait. Et là, je ne peux plus me nier. Donc, oui, je ne vais peut-être pas courir après l'argent, etc. Et je pense que d'être vrai avec ce qu'on ressent au plus profond, c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux autres, même si au début, c'est un cadeau qui n'a pas bon goût. Et bien après, ça fait grandir. Et mon père, il a énormément évolué sur ça. Même si ça a été douloureux pour lui de voir les regards, d'entendre, de savoir que c'était mal vu, sa fille qui arrive là et qui, en apparence, ne fait rien.
Oui, 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 mais je comprends tout à fait. Toute cette histoire est une vraie histoire, même si elle est romancée. Et ça, on le sent, à des moments, voilà, il y a autre chose qui se passe que la vraie vie. C'est une vraie poésie, finalement, ce livre, même s'il n'y a pas de rime, c'est vraiment magnifique. Est-ce que ça aussi, ça vous a donné l'envie de justement mettre toute cette histoire sur une page? Ce sont vos trésors de vie, finalement, que vous avez mis aux yeux de tout le monde.
Encore une fois, c'est venu comme c'est venu, en fait. Vraiment, j'avais envie de... J'ai eu cet appel, en fait, le déclic, il est venu parce que j'étais chez un cousin à mon père, au village, là, et puis il y avait quelque chose, quelqu'un du village d'en bas, enfin, parce que Comillac, c'est un hameau, en fait, qui dépend du village de Hercé. Donc, il y avait un homme d'Hercé, puis qui... le genre de personne où, quand on le voit, on se dit, bon, lui, il n'est jamais sorti, comme on dit, hein. Et il commence à dire, je sais pas s'il roulait les airs, mais voilà, un truc du style, oh, à l'époque, à Las Vegas, tu sais. Puis voilà, je me dis, purée, mais c'est... Et il a quelque chose de conteur, hein, ce monsieur. Donc c'était, voilà, il nous racontait tout ça. Et moi, j'étais là, je le regardais avec des grands yeux. Et puis quand il est parti à ce cousin, je lui dis, mais je la connais, cette histoire. Mais j'ai beau la connaître à chaque fois, elle m'émerveille, c'est incroyable. Et là, j'ai dit, donc j'ai tendu une perche malgré moi. J'ai dit, il y aurait de quoi écrire un livre. Je dis pas que je vais le faire, mais bon. Et là, il m'a dit, et pourquoi pas? Et ce, et pourquoi pas? C'est bon, j'étais mandatée, quoi. C'était comme, ouais, si j'avais signé un contrat. voilà, c'était parti. Et je suis rentrée et j'ai pris mon vieil ordinateur qui a bien voulu s'allumer et j'ai commencé à écrire le premier chapitre. C'était une évidence. Il y avait cette histoire singulière qui a commencé en 1870 avec mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui est parti aux États-Unis exercer son métier de montreur d'ours. Donc, il faisait des spectacles de rue avec les ours. Et de là, en fait, donc lui, il est parti 8 fois. Et il y a d'autres montreurs qui sont partis ensuite. Et ensuite, cette émigration a continué avec des gens qui sont partis travailler dans la restauration, en particulier à New York. Bon, c'est improbable, en fait, dans ce hameau de 100 habitants perdus au fin fond de la montagne.
Surtout à l'époque.
Oui, mais maintenant, la doyenne du village, elle a passé 40 ans à New York.
Enfin,
c'est,
ah oui.
Le garde-chasse, il a grandi, il est né à Brooklyn. Enfin, je veux dire, c'est improbable, oui, en fait. Là, déjà, il y avait de la ressource. De la ressource un peu incroyable, aventurière, qui, voilà, ça met, oui, des paillettes sur la pelouse. Enfin, c'est pas de la pelouse d'ailleurs, c'est de l'herbe, de la prairie. Et ça, plus ce pays de caractère, plus ce que moi je sentais palpiter en moi, je me suis dit, il y a matière et j'avais envie de... Il y a aussi, il y a une libraire qui m'a dit, ah, votre livre, je vois une parenté avec Philippe Delerme. Donc, il a écrit La petite gorge de bière et autres plaisirs minuscules, et donc qui est connu pour des textes très courts où il décrit... Je me souviens d'un où c'est écosser les petits pois. Et donc, il raconte cette scène avec sa grand-mère à écosser les petits pois. Oui, il y a de ça aussi dans mon livre. Il y a honorer les petits riens, redonner tout leur titre. Parce que vraiment, c'est ça qui nourrit pour moi.
Oui. Votre papa vous a enseigné tout ce qu'il savait, ou quasi tout ce qu'il savait. Et notamment, il vous a parlé du découpage parcellaire. Parce que pour eux, pour ces personnes de cet âge-là et de cette génération, c'était toute une vie à essayer de repousser les traits sur un cadastre, mais quand même, on les pousse chez les autres, mais les autres ne doivent pas les pousser chez nous.
Ouais.
Ça aussi, ça fait partie d'un enseignement de père à ses enfants, ou à son enfant, et en l'occurrence à vous.
Je ne sais pas si c'est vraiment un enseignement. En tout cas, effectivement, à un moment donné, quand j'essaye de lister les arguments pour le fait que oui, je suis d'ici, donc d'Ariège, du Couserin, il y a ce truc-là, je rigole en disant qu'à l'âge de 7 ans, le mot cadastre était rentré dans mon vocabulaire par décoction, par imprégnation, par infusion, tellement je l'ai entendu prononcer. Oui, c'est quelque chose de très fort, parce que mon père, il est profondément attaché à cette terre. Et donc, ça passe pour lui. Pour d'autres, ça passe pour autre chose, mais par avoir des terres, avoir des bois. C'est aussi quelqu'un qui se ressource énormément dans la nature. Et donc, il est tout content, là, d'aller ramasser des châtaignes et de me dire « C'est moi qui l'avais greffé, le châtaignier !» Et regarde le noyer comme il donne. Et là, justement, je lui ai proposé qu'on plante des fruitiers parce que bah, c'est merveilleux quand même. Nous, on a juste à mettre une graine et la nature, elle fait tout après. Donc,
oui,
c'est formidable.
Être chez soi, c'est bien, à la vue de tous. Parce que peut-être on ne veut pas avoir et savoir tout de tout le monde. Est-ce que cette expérience pour vous a été difficile, justement, de se retirer pour pouvoir, comme une chrysalide, renaître papillon ?
Non, ça pas du tout, parce qu'en fait, déjà avant, dans les Hautes-Pyrénées, j'avais déménagé et je suis devenue très casanière. Donc ça, je pense que j'ai un petit côté ermite assez prononcé. Effectivement, là-bas, j'avais pas de réseau. Bon, il y avait la télé, mais moi, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai beaucoup écouté la radio sur un petit poste à aiguille, j'en parle d'ailleurs. Mais vraiment, et j'ai aimé ça, vraiment. Après, je ne sais pas si je ferai toute ma vie comme ça. Là, j'ai à nouveau du réseau. Je trouve ça quand même bien pratique. Mais non, moi, le côté se retirer, ce n'est pas du tout quelque chose qui me challenge, quoi. Mais en fait, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Parce qu'à Cominac, tout le monde me connaît. Donc, j'étais plutôt au cœur d'un hameau où on n'est pas anonyme, etc. Donc, je ne l'ai pas du tout vécu comme une retraite. Hein.
D'accord, non. D'accord. La pauvreté qui a fait partir, on vient d'en parler, qui a fait partir des habitants un petit peu partout dans le monde, dont vous avez trouvé des traces de votre famille en Amérique, de vos aïeux. Qu'est-ce que ça a soulevé, ça, en vous ? Vous venez de me dire que vous êtes casanière.
Oui.
C'est un contraste.
Je suis une casanière voyageuse, parce que j'ai quand même passé janvier, février, mars en Inde. Avril, j'étais au Népal, toute seule, en impro, sac à dos. Voilà. Je suis et casanière et voyageuse. De toute façon, je pense que dans mon être sont réunis beaucoup de contrastes.
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Eh ben, ça a été vraiment un immense cadeau qui m'a été fait que cette femme, donc Françoise Lewis, qui a retracé les 8 voyages de mon ancêtre aux États-Unis. Quand j'ai compris, parce que ce qui est incroyable, c'est que je savais qu'on était la vallée des montreurs d'ours. Donc en fait, cette tradition de la montre de l'ours, elle est circonscrite sur une poignée de villages en fait. C'est vraiment tout petit. Et je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je ne savais pas que j'en avais un dans ma famille. Et en plus, que mon prénom vient de lui, parce qu'en fait, il s'appelait Alexis. C'est descendu dans l'arbre. Son petit-fils était Alexandre, le grand-père de mon père. Et mon père m'a appelée Alexandrine pour ça, en fait. Donc, en plus, je tiens ça de lui. Donc, moi qui me suis toujours sentie comme l'original de la famille, parce que ce côté voyageur, ce côté artiste, bon, en fait, j'ai rien à inventer. Hein. Mais rien du tout. Et effectivement, quand je suis allée à New York, j'y suis allée parce que de voir mon père qui était fasciné par New York, mon père, cet ours ariégeois, je me disais, mais comment c'est possible? Et tous les gens qui allaient étaient fascinés. Je me suis dit, je veux lutter contre mon anti-américanisme primaire et je veux aller voir ça. Et j'ai été conquise aussi. Et à l'atterrissage, vraiment, quand on est arrivé et qu'on a vu là, ces lignes de gratte-ciel, j'ai pleuré. Mais vraiment, ça a pleuré en moi et je n'ai pas compris pourquoi je pleurais. Et c'est maintenant, presque, je pense que c'était il y a au moins 10 ans, il y a 15 ans, je pense que je suis partie à New York, j'ai compris pourquoi, en fait. C'était comme un bout de moi, hein, à travers mes ancêtres qui sont encore présents, palpitants dans mes cellules. Il y avait quelque chose qui se reconnaissait, qui se retrouvait. Et bah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je remercie énormément Françoise Lewis, qui est donc une descendante de montreurs d'ours et qui habite là-bas. Mais sauf qu'elle, en fait, ses ancêtres ne sont pas rentrés. Mon ancêtre est rentré, donc je suis française. S'il n'était pas rentré, je serais maintenant américaine. Donc c'est fou aussi de voir ça, cette trajectoire, comment ça se joue à tellement peu de choses.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un immense cadeau qu'elle m'a fait. Donc j'ai la chance d'avoir pu avoir accès à mes racines en profondeur. Là, et c'était... Ça aussi, ça a été un feu vert, quelque chose qui m'a montré, vas-y, tu vois, tout est là pour écrire ce livre.
Le choix de partir pour ces personnes-là, et à l'époque, alors c'était tout un périple pour aller seulement à Toulouse, ou à Pamiers, ou à Foix, ou à Bordeaux, c'était le bout du monde déjà. Mais là, traverser l'Atlantique pour aller montrer des ours de l'Ariège, mais c'est même pas pensable aujourd'hui de dire, mais il faut du courage, quoi.
Ouais.
Ariège, terre, courage, porte bien son nom.
Il faut du courage, de l'audace, de la folie, de l'envie de grandiose, d'aventure. Parce qu'il partait donc en plus...
tout simplement avoir faim.
Je pense pas que c'était à ce point-là. En tout cas, c'est sûr. Lui, il était, avant de devenir montreur d'ours, il était scieur de long. Donc, il était itinérant et il allait scier là où on l'appelait pour scier, hein, pour couper des arbres. Mais je pense qu'il y avait un appel. Donc, de toute façon, effectivement, il pouvait pas rester sur place, voilà, parce qu'il n'y avait pas effectivement assez. Et je pense qu'il y avait aussi une soif d'aventure, quelque part, une petite folie douce, là. Et d'autant plus que c'était le premier, parce que ceux d'après, ils avaient déjà... Enfin, après, les combines circulaient. Tiens, passe par là, fais comme ça, là, tu verras.
Oui.
Mais là, c'était tout nouveau, quoi. Et puis, c'était pas sans danger, quand même. Donc, la plupart, comme c'est relaté, parce qu'il y a beaucoup de... C'est très documenté, hein, ça, les montreurs d'ours aux États-Unis, etc. Quand ils arrivaient, ils s'achetaient un revolver. Il faut s'imaginer, mon ancêtre, il passait un an et demi sur les routes, donc à faire des spectacles. Et puis après, il n'y avait pas le système des banques comme maintenant, etc. Donc, il gardait tout son pécule sur lui pendant tout ce temps-là. Donc, même s'il était entouré d'un ours, bon, ça pouvait être quand même dangereux. C'était de vraiment de folles aventures, quoi.
Oui. Ouais. Oui. Alexandrine, on va faire une pause musicale. Oui. On écoute la deuxième partie de votre ami.
Avec joie.
Si vous venez de nous rejoindre, je suis en compagnie d'Alexandrine Loubet, qui nous parle du murmure des ancêtres. Alexandrine, savez-vous s'il y a eu beaucoup de migrants, justement, partis loin, même si ce n'est pas l'Amérique, pourquoi pas ?
Je sais que sur les... Je crois me souvenir, alors pardon pour ceux qui auraient vraiment l'information et qui me reprendraient, c'est bien possible, mais qu'il y a eu 600 montreurs d'ours qui sont partis de RC au Lus, enfin vraiment cette poignée de villages là, aux États-Unis. Mais montreurs d'ours, et après, je n'ai pas les chiffres, c'est des générations et des générations.
Et qu'en Amérique, ils partaient surtout sur l'Amérique.
Ouais, il y a eu quelques départs, je sais aussi en Angleterre, un peu ailleurs, mais c'était vraiment à la marge, c'était vraiment les États-Unis.
D'accord.
Et ensuite, c'était vraiment centralisé sur New York.
D'accord. Vous avez vraiment voulu vous intégrer dans ce village, justement, de Comignac, cette montagne. Vous avez même appris l'occitan, et ça, c'est le patois de nos anciens. Ça a été facile pour vous, cette démarche, ou pas? Ou c'était passer par là pour pouvoir s'intégrer?
Qu'est-ce qu'a au carré, doutu?
Ben en fait, non, alors je l'ai appris avant. Moi, j'ai toujours aimé entendre cette langue-là, parce que quand je l'entendais parler, c'était mon père qui l'a parlé, et que ça sentait l'amour, quoi. Mon père, quand il parlait l'occitan, vraiment, il le... Enfin, en fait, on disait pas occitan, d'ailleurs, on dit patois.
Oui, patois.
Même si c'est un terme qui est dépréciatif, bah, là, ça c'était pas utilisé avec cette connotation-là.
Oui.
Et c'était la langue de la connivence, c'était la langue, voilà, qu'il parlait avec ses grands-parents, avec sa tante Alexandrine, qu'il aimait beaucoup. Et Ouais, c'était vraiment la langue de la Madeleine de Proust. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, j'aimais l'entendre quand j'étais enfant. Et puis, mon père ne me l'a pas transmis parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Et puis, quand je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, je suis arrivée à Luz-Saint-Sauveur et j'ai enseigné là-bas. C'était une école bilingue, en fait. Et ça m'a touchée. Et puis, voilà, il se trouve que, enfin, qu'il y avait des cours hebdomadaires pas très loin de chez moi, des gens que j'appréciais. Et donc, j'ai pris 2 années de cours. Mais en fait... Après, je me retrouvais un peu coincée parce que les gens de mon âge, une fois qu'on avait dit Adi ou Kinteba, il n'y avait plus grand monde. Et après, il aurait fallu que j'aille chercher des locuteurs, mais ça devenait assez artificiel. Mm-hmm. Et avec mon père, ça, il me dit « Ah, c'est pas le même. » Bon. Et j'ai lâché.
Oui, oui, oui. C'est dommage que vous n'ayez pas pu perdurer cette tradition, mais on ne sait jamais. Le nom de maison... ça, c'est une vieille coutume. Hein, quand on disait le nom de maison, c'était terrible, c'était fort en même temps. Mais être de la maison, est-ce que c'est aussi être du pays ou pas ?
Être de la maison, bah oui, forcément. Oui. Forcément. Et puis, il y a quelque chose, comment dire ? Ça aussi, c'est un marqueur. Si j'appelle quelqu'un par son sobriquet, bon, bah, ça veut dire que je suis de là, en fait.
D'accord.
Parce que je ne le connais pas par son nom administratif. Ça, c'est marrant, ça me fait un parallèle avec quand j'étais enseignante, j'avais pas mal d'enfants de la communauté des gens du voyage. Et souvent, pas dans toutes les communautés, mais dans certaines, ils avaient le nom du camp, le nom et le nom de l'école. Bah, nous, c'est un peu ça, en fait, finalement, d'une certaine façon, avec ce sobriquet.
Oui.
C'est un peu le nom de chez nous et puis le nom pour ailleurs, quoi. Voilà,
oui.
Donc, ouais, c'est...
Et oui, parce que si vous arrivez en disant le nom de la maison, vous êtes du pays automatiquement.
Ouais, c'est ça.
Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Le fait de dire que les gens, quand on n'a pas de nom de maison, les gens qui vous disent « Ah, mais tu n'es pas d'ici », est-ce que c'est un peu de la ségrégation ou pas ?
Je sais pas. Je pense que... Enfin, moi, j'ai pas envie de m'attacher trop à ça. Donc,
oui.
Après, il y a certaines personnes qui ont envie d'un entre-soi, mais en fait, cet entre-soi, j'ai remarqué, à un moment donné, j'ai parlé de ça avec un cousin, parce qu'il disait, il se plaignait que... Il y a presque plus de Kominakwa de souche. Alors moi, ça me faisait un peu rigoler, parce qu'on a quand même la chance d'être un hameau. Il y a beaucoup de gens qui reviennent s'installer, donc qui est quand même vraiment bien vivant, avec des enfants notamment et tout, donc c'est vraiment chouette. Et en fait, je dis, mais c'est quoi la différence entre les Kominakwa de souche et les autres ? Il m'a dit, mais eux, ils connaissent pas le temps d'avant, et on peut pas parler de ça. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont une certaine nostalgie de certaines choses que je partage dans le livre, en fait, de ces veillées, là, chez l'un, chez l'autre, de ce temps, là, où on faisait les foins tous ensemble. C'est vrai qu'il y a une saveur qui n'est plus là, la saveur de l'entraide, du partage. Et donc, effectivement, je comprends ça, je comprends ce truc de, bah,
oui.
Eux, je peux pas leur parler de ça, je peux pas, ils l'ont pas vécu. Et
oui.
Et c'est difficile à mettre en mots. Et j'ai eu la chance que me soit donnée de réussir, en tout cas en partie, à le faire. Et je suis contente de le faire pour rendre hommage et garder une trace de ça.
Oui. Le fait aussi d'immatriculer sa voiture, ça aussi, c'est un moyen de ne pas être catalogué.
Ah oui. Mais alors vraiment, écoutez, vous qui nous écoutez, rien que pour ça, je crois que ça vaut le coup de lire ce livre.
Parce
que...
tout à fait. Mais tout à fait.
Parce que je parle du complexe de la plaque minéralogique. Voilà. Je vous laisserai découvrir, mais ouais, c'est très drôle. C'est
très drôle. Très, très drôle. Vous traduisez la chasse en cours par « on est chez nous ». Donc, tu viens chez nous, fais attention.
Ouais,
est-ce que c'est un peu ça ou pas ? Parce que ça m'a interpellée également. Enfin, de toute façon, toutes les phrases ou presque m'ont interpellée dans votre livre.
Oui, j'ai introduit ce chapitre sur les chasseurs parce que je voyais que, comment dire, sans donner de leçon et vraiment à aucun moment, je disais un peu de moi et de mon regard sur le monde et notamment par rapport aux néo, aux gens du cru, les résidents secondaires, les gens qui vivent là l'année, les touristes, que... On se cherche beaucoup de raisons de se diviser, de faire des clans et du coup d'exclure. Et moi, je trouve ça dommage. J'ai plutôt envie de regarder ce qui nous unit, que ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et en même temps, bah, chez moi aussi, il y a cet élan de division qui est là parfois et que je regarde et que j'observe. Et moi, bah, c'est à l'endroit des chasseurs. Et c'est un chapitre sur ça avec beaucoup d'autodérision et où je raconte justement que quand je vois le panneau chasse en cours, je me dis mais pourquoi ils me le disent en fait ? C'est pour me dire attention, tu risques de te prendre une balle perdue. Enfin,
oui.
C'est quoi le concept ? Je rigole de ça et je suis très contente parce que la dernière fois, je me baladais dans le village et puis il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit « Hé, toi, viens me voir, je l'ai lu ton livre !» Et bien, c'est bien, et ça m'a plu. Et puis, je rentre chez lui, et en fait, il y avait un alignement d'une dizaine de cornes d'isard. Et puis, je tourne la tête, et puis, y a... donc déjà, cette densité de cornes, ça m'a un peu ouf. Et puis, je tourne la tête, et puis là, il y avait la tête de sanglier, la fameuse tête de sanglier, le renard empaillé, enfin, la totale, quoi.
Oui.
Et j'ai eu un petit mouvement de recul, parce que c'est quand même impressionnant. Et puis, il me dit, en rigolant pour me taquiner, il me dit, eh oui, t'es chez un chasseur ici, hein? Et puis, il a poursuivi en disant, mais c'est bien parce que tu donnes pas de leçons. Et donc, je suis vraiment contente qu'on sente que derrière tout ça, je suis pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai rien à. Voilà, c'est pas du
mais
tout
oui,
l'objet. C'est
bien
pas
sûr,
du tout l'objet.
Bien sûr.
Et je suis contente que ça ait été reçu comme ça.
Oui. Tout le long de la lecture, j'ai bien fait attention aux petits mots, aux petites virgules. Et là, à un moment, je ne sais plus à quelle page c'était, votre père m'est apparu comme. Un artiste qui s'ignore, c'est vrai ou pas ?
Ah, mais c'est plus que vrai. C'est plus que vrai. Encore l'autre jour, là, j'ai pris une photo, je me suis dit, bon, peut-être que je vais la poster sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis arrivée dans l'entrée de la maison, là, et j'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai ri. En fait, il a récupéré... Non, mais c'est improbable. Il a récupéré un nid d'oiseau. Il a pris des noix. Il a peint les noix en gris. Que ça fasse comme des œufs. Il les a mis dans le nid et après, il a planté une corne de cerf dans un pot de fleurs, là, dans un géranium. Ce bois de cerf avec une espèce de composition mais improbable. Je raconte effectivement ça plein de petites. Ce côté facétieux et ce génie créatif que je trouve. Je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Je crois que j'aurais voulu voir ça plus tôt chez lui. Parce que moi, j'ai grandi avec un père qui était sérieux, qui était bosseur, travailleur,
et oui.
Qui n'était pas là pour rigoler, quoi. Et maintenant qu'il est à la retraite, il s'offre beaucoup plus l'occasion d'être lui-même. Et je trouve ça magnifique, en fait. Parce qu'en plus, je pense qu'on peut être et super travailleur, et passer sa journée en costume, costard-cravate. Et puis, je ne sais pas, écrire de la poésie ou faire comme mon père, cette espèce d'installation complètement improbable. Et on n'est pas qu'une seule chose, en fait. On est chacun des boules à facettes. Et il faut que toutes les facettes rayonnent, quoi.
D'ailleurs, je ne trouve pas ça trop étonnant. Puisque déjà, bon, votre papa, bien sûr, vos ancêtres également, parce que dresser un ours, il faut avoir de la patience, il faut avoir du doigté, et comme un peintre à son chevalet, un sculpteur à son marbre aussi, est-ce que vous pensez justement que vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez eu cet héritage-là ?
En très grande partie, c'est un peu dur à avaler si on a envie de croire qu'on se fait tout seul, et que oui, mais moi... Mais non, je me rends compte que non. Et puis même dans les lieux où je m'installe, à chaque fois, en fait, j'ai eu tellement de liens avec mes ancêtres, que ce soit aussi avec une grand-mère. Enfin, j'ai eu beaucoup de signes à chaque fois où je me disais, oh là là, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule et là, je suis pas du tout en train de tracer ma première ligne dans la poudreuse. Là, hein. Là je suis juste en train de suivre les sillons tracés par mes ancêtres. Et pour moi, je suis venue pour ça et ça a sa place. Et avec toute ma singularité, je n'ai pas effacé, enlever des couleurs de ma palette. Mais toutes ces couleurs-là sont parfaitement bienvenues dans cet univers-là où je suis née. Et c'est ça que je fais rayonner maintenant avec ce que je propose, donc la littérature et autres. Voilà.
Oui. Après tout votre parcours de vie, est-ce que vous êtes bien chez vous ? Et comment les voisins vous considèrent finalement ? Avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les écrits, avec tout ce qu'on peut savoir.
Alors, vous voulez dire à Cominac, parce que j'habite plus à Cominac.
Oui, non, mais même dans votre village, vous, quoi.
Dans mon village, les gens, ils ne savent pas forcément ce que je fais, en fait.
D'accord.
Il y a des gens aussi, je leur dis, j'écris, et ils sont là, ah bon. Donc, ça, comment dire. Moi, je me rends compte que, comme moi, je m'assume comme je suis, et que je ne suis pas en train d'essayer de vouloir chercher la validation de qui que ce soit, je suis acceptée comme je suis. Moi, j'accepte l'autre tel qu'il est. Tout va bien. En fait, en général, il n'y a pas de friction ou d'incompréhension. C'est assez tranquille.
Vous dites avec grand humour que le Wi-Fi marche bon train dans le village et alentour. Quand on dit ça va tellement vite qu'on a l'habitude de dire on n'a pas fait le pas, qu'on voit déjà le dessous de la semelle. Parce que le Wi-Fi, ça va vite dans les villages.
Le bouche à oreille, oui. Le bouche à oreille, il n'y a pas de Wi-Fi, mais par contre, oui, effectivement. Mais après, là encore, quel regard on pose en fait sur une même réalité. Soit on s'en offusque et oh là là, mais regarde, lui, il est allé répéter ça et ils ont que ça à faire. Et soit on se dit, bah oui, ils ont que ça à faire en fait. Je veux dire, oui. Les montagnes elles bougent pas, hein, donc les choses qui bougent autour, bah ça attire l'œil, bah oui, et alors c'est pas grave. Je pense que, encore une fois, quand on est bien dans ses baskets, bah c'est pas grave que les gens parlent et qu'ils parlent pas. Et puis. Ouais, je sais pas, moi j'étais déjà dans une... Avant, quand j'étais dans les Hautes-Pyrénées, il y avait ça aussi, il y avait l'effet vallée, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur tout le monde. Bon, c'est pas... Entre ça et l'anonymat des grandes villes, bon, bah, moi je préfère ça, je crois.
D'accord. Les hippies qui s'implantent, les locaux qui se déracinent, ça aussi c'est difficile à vivre pour un petit village comme celui de l'Ariège ?
Bah non, moi je pense que c'est très très bien. Enfin, que les locaux se déracinent, non. En fait, en l'occurrence, là je parle de... la génération de mon père ou ces gens qui sont partis donc travailler ailleurs parce qu'il y avait pas trop le choix ou en tout cas qui croyaient qu'il y avait pas le choix ça correspondait à un certain modèle aussi d'ascension sociale, donc on part en ville pour s'élever aussi, etc. Et qu'il y a une petite tristesse en fait, enfin une tristesse bien réelle en l'occurrence d'avoir quitté le pays. Et oui, et des gens qui arrivent et on a la chance qu'ils arrivent, ces gens-là, parce que sinon ces montagnes seraient en train de disparaître en fait. Non, en tout cas, la vie, et je trouve que c'est quelque chose qui est formidable en Ariège, c'est à quel point c'est vivant, en fait. Même dans les petits villages, il y a beaucoup d'activités, c'est foisonnant. Et ça, je trouve que vraiment, c'est quelque chose de très singulier, de très propre à l'Ariège. Il y a un dynamisme, c'est une terre qui appelle depuis toujours. Et je trouve ça magnifique. Et bon, oui, il y a quelques frictions de cohabitation, mais j'ai envie de dire, comme partout ailleurs, hein, je sais pas, moi j'ai pas envie d'en faire un sujet particulier. Oui. Je l'évoque un peu dans le livre parce que moi, je me suis sentie être un peu un pont entre les deux parce que je suis du cru, hein, et en même temps, je suis néo parce que j'ai ce côté un peu alternatif, etc. Je côtoie et je connais les deux côtés. Je sais que notamment, on va dire, il faut mettre un mot chez les babas, il y a ce truc de toi, t'es une loupée. Parce qu'à Massat, loubé, voilà, oui. C'est ceux du cru, quoi. T'es une loubé, oh là là, elle me regarde comme s'il voyait un dinosaure, quoi. C'est intéressant de montrer, bah oui, il y a des loubés comme moi, tu vois. Et il y a des néos, et enfin, il y a de tout, et ça se côtoie plutôt assez bien, je trouve. On n'a pas trop à se plaindre globalement.
Ça, c'est bien. Page 138, il y a « Ouvrir la maison des potrons minés, sinon on les feignant. Bon à rien, il faut être vaillant. » Qui connaît cette expression aujourd'hui ou est-ce qu'on est les derniers dinosaures à l'employer ?
Qu'il faut être vaillant ?
Oui.
Non, je pense que c'est encore bien là. Et alors, c'est fou parce que même chez les babas, bien babas, les gens qui vivent de façon très, très simple dans la montagne et tout, il y a ce côté, ça a été repris, mais même ce mot-là de vocabulaire. Oh, lui, c'est un vaillant. Hein. Et c'est bien vu, quoi. Donc, il y a vraiment, je veux dire, les gens qui viennent s'installer en Ariège, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est oui. Pas juste des fumeurs de pétards, etc. Il y en a aussi, c'est des guerriers. Hein. Et il y en a beaucoup. Hein. Et oui. Moi, c'était ça aussi, de ne pas tomber dans ce piège-là, en fait. De me rendre compte que moi, comme on disait tout à l'heure, oui, rentrer un peu de bois, ça va. Mais passer une demi-journée à fendre avec un gros merlin, bah, en fait, je vois bien que mon corps ne suit pas et que non. Donc, que l'énergie que je mets là, je ne la mets pas ailleurs. Donc, c'est très bien, en fait, ceux qui sont comme ça, tant mieux. Mais oui, c'est encore bien là. Et justement, parce qu'il y a des gens qui vivent de façon très simple, avec très peu d'argent, ça suppose quand même beaucoup de débrouille. Et la débrouille, c'est de l'huile de coude. Et c'est du travail, en fait, d'une certaine façon.
Oui. Est-ce que si je vous qualifie d'ambassadrice de l'Ariège Terre au Courage, je pense que ce n'est pas exagéré, est-ce que vous avez justement conscience que vous vendez votre département dans les murmures des ancêtres ?
Je dirais ambassadrice de l'Ariège Terre Courage à paillettes. J'ai plutôt envie de rajouter ça quand même.
Ah oui ?
Bah oui, parce que comme je dis, parce que moi, ce truc-là, là, de vraiment d'être vaillant et tout, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de rude un peu derrière. Donc
oui,
voilà.
Tout à fait.
Et puis qu'en Ariège, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités artistiques. Il y a beaucoup d'artistes qui sont implantés là et tout ça. Donc moi, je me sens aussi de cet endroit-là. Mais oui, ambassadrice d'une certaine façon, après, à une certaine mesure, parce que contrairement à d'autres collègues qui écrivent, mon deuxième roman, il ne parle pas du tout de l'Ariège, il se passe pas là, et voilà.
Oui.
Moi, j'avais ça à dire, je l'ai fait, je suis très contente de ça. Après, je me rends compte aussi, enfin, vraiment, je crois que ce livre, il peut toucher des gens qui ne connaissent absolument, et c'est le cas d'ailleurs. J'ai des retours de gens qui n'ont jamais mis un pied en Ariège et qui s'y retrouvent parce que c'est comme dire, j'en sais rien, par exemple, Marcel Pagnol, on n'a pas besoin d'être provençal pour l'aimer, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Donc, bon, je me compare un peu aux grands et pourquoi pas, allons-y.
Bien sûr.
Pour moi, c'est, je vous emmène avec moi, je vous immerge dans un quotidien avec des personnages hauts en couleur, avec une terre riche d'histoire, avec toute ma sensibilité, mais ça se limite pas à ça. Donc je suis pas, oui, d'une certaine façon, je le revendique cette appartenance et j'en suis très contente, mais je me borne pas à ça.
D'accord. J'aime l'image de la fin. Ouais, c'est une belle image, c'est un beau tableau. D'ailleurs, je veux le laisser découvrir aux auditeurs. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on s'y étale et qu'on en parle. Par contre, la couverture, elle est de vous parce que franchement, c'est une couverture qui en dit long sur vous, artistique déjà, mais aussi toujours aller plus loin, à la pousse du rameau. Et puis, cette couleur douce derrière, c'est une rêverie.
Ouais. Bah, c'est très rigolo parce que cette couverture, je suis quelqu'un de très conciliant. J'ai pas des immenses exigences, etc. Mais là, par contre, je me suis fâchée très fort. Je me suis fâchée très fort avec la maison d'édition pour le titre parce que moi, je voulais ce titre et que les propositions qui m'étaient faites, je trouve qu'elles correspondaient pas à mon livre. Et moi, ce titre, il me plaisait beaucoup, j'y tenais beaucoup et je suis contente de l'avoir gardé. Et cette couverture, la maison d'édition voulait partir sur quelque chose d'autre qui ne me correspondait pas du tout. Et je me suis vraiment battue, mais très très fort. Ça a été épuisant. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Et là, j'ai dit, bah voilà, j'ai envoyé la photo de ma tapisserie. Et c'était des fleurs de cerisier avec un fond un peu moutarde, comme ça. Et elle m'avait déjà fait cette proposition de petits médaillons, comme ça, au centre. Et la montagne, enfin... Et quand elle m'a dit, bon, écoutez, là, la pauvre graphiste... Ça a été un peu dur pour elle, tous ces changements, mais je remercie mon éditeur et cette femme de m'avoir écoutée, de m'avoir fait confiance, parce qu'effectivement, je trouve que cette couverture est réussie et qu'elle me ressemble, qu'elle ressemble à mon livre.
Tout
Donc
à
c'est
fait.
Important. C'est très
Tout
important.
À fait. En tout cas, un livre comme La vraie vie, on sent la fraîcheur de la rosée du matin. Et là, je fais une petite parenthèse dans les lectures. La chaleur du soleil, l'odeur de la forêt, le bruit de l'eau. Quel plaisir j'ai eu à vous lire. Mais c'était presque en oublier ce que j'avais à faire pour pouvoir vous lire, quoi. C'était très fort. Alexandrine, merci de me l'avoir confié, cette lecture, et d'avoir pu échanger avec vous là-dessus. C'est un grand plaisir aussi. Cette plongée dans les temps anciens, ça fait du bien. Vraiment opposé au moderne, et là je parle encore du Wi-Fi, parce que c'est ce qui est le plus... opposé au moderne, les réflexions de ce ressenti aussi, appartenir à l'entier de tout. Le village, c'est le pays, c'est le village. On est partie prenante là-dedans. En tout cas, c'est une belle leçon de vie que vous nous avez écrite, parce que quand on lit, on est obligé de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour dire « mais moi, là-dedans, je suis quoi ?» Ce que moi, j'ai ressenti en lisant « merci », pour nous avoir concocté ces 150 pages qui en valent 1500. On aurait beaucoup de choses encore à dire, mais bon, il faut arrêter. Vous avez choisi une musique pour finir, un morceau de musique classique.
Oui, Erik Satie. Ça se prête vraiment à la rêverie, à la contemplation. Il y a quelque chose de doux, d'enveloppant. Donc je trouve que c'était bien pour finir. Et vraiment, je vous remercie pour vos mots qui sonnent justes et que je ressens vraiment dans mon cœur. Merci pour ça beaucoup.
Mais merci à vous, Sandrine. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine fois. On ne sait jamais, puisque vous continuez d'écrire.
Oui, avec joie.
Le prochain, on peut savoir un peu à quoi il va avoir trait ou pas.
Oui, c'est un roman spirituel. C'est Jean-Michel, 50 ans, qui est pigiste dans un journal sportif au Havre, qui est post-dépressif ou pré-dépressif, ça dépend des jours, et qui, suite à une série de rêves, il voit son monde vaciller et il prend la route, comme ça. Et là, les deux premières personnes qu'il rencontre, c'est deux bonnes sœurs qu'il prend en stop. C'est pas très joli, mais c'est l'image du labour, quoi. Vraiment labourer son être en profondeur. Et le destin de sa fille aussi qui est lié, et chez qui le départ du père, comme ça, va aussi amorcer, la propulser en fait, sur un chemin spirituel. Donc ces deux êtres qui sont propulsés bien malgré eux sur un chemin spirituel, et avec plein de rencontres hautes en couleur et profondément touchantes.
je rencontrais Alexandrine Loubet. Le murmure des ancêtres, c'est paru en juillet
2025.
Et donc, c'est aux éditions Kern. On peut le trouver partout chez le libraire. Si on lui dit, voilà, on veut le murmure des ancêtres, le libraire peut vous le commander.
Oui.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.